Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour...
Culture prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-blogspot.fr. Avant d'annoncer le sommaire de cette dernière émission de notre 11e saison, nous voulions tous vous dire à quel point nous sommes heureux d'être à nouveau dans notre studio. Et oui, chers auditrices et auditeurs, que vous soyez en France, en Belgique ou dans d'autres pays francophones, parce que nous sommes téléchargés un peu partout, voilà, on a des statistiques, on peut tout voir maintenant avec Internet. Et bien, nous sommes ravis de vous retrouver, on espère que vous allez bien, même si le Covid-19 continue de rôder. Nous, on a décidé dans cet épisode de causer de nos sorties de l'été. Quoi lire, quoi regarder pendant les 2 mois à venir. Alors, on remercie Mathilde Gibault, Kevin Boissezon, Antoine Guérin, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Et nous sommes trois dans ce studio. Il y a à ma gauche Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site culturopoint.com. Salut Thomas.
Salut GG, et bien évidemment, bonjour à toutes.
Et à ma droite, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Nous allons tout d'abord parler bouquins. Je laisse Thomas nous causer d'une BD signée Moss, parue chez L'Armatan BD, et qui s'intitule donc L'AF, l'Africain, la vie au village.
L'AF, l'Africain, héros récurrent apparu en 2014 chez L'Armatan. L'AF, l'Africain est un peu l'équivalent d'un Gaston Lagaffe. Avec son patronyme, l'Africain en un seul, qui fait écho donc à Lagaffe également écrit en un seul mot, je ne serais pas étonné que le personnage de Franquin soit la principale influence de son créateur, Gunther Moss, un bédéaste bien mystérieux dont on sait peu de choses en fait. Hein. À la lecture de l'album, on devine qu'il est camerounais, les différentes histoires faisant souvent référence à ce pays d'Afrique centrale. À l'évidence, Gunther Moss, qui est originaire de Yaoundé, est un pseudonyme. La vie au village est donc le 3e album qui met en scène l'AF, l'Africain, habitant d'un petit village reculé, un poissard à qui il arrive, bien évidemment, toujours une tuile, voire plusieurs. Amateur de foot, si vous voulez savoir comment se déroule un match de foot dans un petit village africain, comment l'équipe du Cameroun a remporté un match de la Coupe du Monde de 90 contre l'Argentine et Diego Maradona, cet album est pour vous. Et au cours des multiples aventures de Laf l'Africain, Laf recevra un Français qui accompagne son épouse revenue au village, accompagnera un autre ami pour apporter la dot à la famille de sa fiancée, ira à la chasse, se disputera avec ses voisins, saura se faire respecter de ses épouses, car évidemment, Laf est un homme, un vrai. Laf, c'est le perdant qu'on aime bien, celui qui nous fait rire et nous attendrit à la fois. Gunther Moss réussit un album drôle, au découpage dynamique, avec un trait assez personnel et parodique. L'humour se montre à la fois mordant, dénué de concessions, sans toutefois se montrer méprisant. Mais pour une BD d'humour, c'est parfois cruel. Certaines cases prouvent un regard, un point de vue assez féroce sur certains thèmes, notamment ce qui touche les animaux. Bien sûr, qui dit humour dit cliché, et la vie au village en déglingue quelques-uns, dépeint quelques personnages croustillants, se moque un peu des puissants, décrit les us et coutumes de ce petit village avec dérision. Laf se voit ainsi être au centre d'histoires de jalousie, de vengeance, de tromperie et de mensonges. Tout cela, toujours sous l'œil, malgré tout bienveillant, de Moss, qui signe un très bon album de BD d'humour, très drôle, qui se lit très bien. D'ailleurs, la première histoire, intitulée « Le match », qui raconte le déroulement d'un match de foot au village, se révèle très amusante. Je pense d'ailleurs acheter... Ça m'a tellement plu que je pense d'ailleurs acheter les deux premiers volumes de Laf l'Africain, tellement je trouve ça sympathique.
Eh bien, écoute, en tout cas... Tu nous as donné envie de lire cette BD qui se situe donc dans le sillage de Franquin, ce qui est toujours une bonne chose. Moi, je vais rester dans la BD avec le comics Sad Weekend, qui est un hors-série de la saga Criminal, hein, qui paraît chez Delcourt d'ailleurs, hein, qui est une saga où vous pouvez toujours avoir tous les volumes. C'est signé Ed Brubaker au scénario, Sean Phillips au dessin. Et cette fois-ci, à la couleur, c'est Jacob Phillips, parce que d'habitude, c'est Elisabeth Bredweiser. Et moi, je préfère quand c'est Elisabeth Bredweiser. Là, je trouve que c'est les couleurs de Jacob Phillips mettent un peu moins en valeur le trait de Sean Phillips. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on n'est pas dans la saga criminelle habituelle avec des numéros à suivre. Voilà, là, on est dans des petites affaires, comme l'équivalent de nouvelles, en fait, une nouvelle mise en image. Et là, c'est rigolo parce que c'est un petit côté, BD dans la BD. Voilà, c'est-à-dire qu'on a, c'est l'histoire de Hall Crane. Enfin, c'est pas l'histoire de Hall Crane, c'est l'histoire d'un ancien assistant de Hall Crane qui est un dessinateur de comics, et il avait un assistant qui était un jeune homme qui l'a dégoûté du métier de dessinateur. Voilà, tellement il était insupportable. Hall Crane, c'est une légende oubliée des comics. Alors le personnage Hall Crane, personnage de fiction, mais il vit entouré dans la BD de Brubaker de vrais auteur de comics, hein, dans cette BD. Et donc, Hall Crane, il est insupportable. C'est un sale type, il est alcoolique, il fume comme un pompier, il est vraiment très dur, il n'a jamais un mot tendre pour les gens qui sont autour de lui. Et Hall Crane est invité à un Comic-Con pour recevoir une distinction. Voilà. Et il se trouve qu'il exige du Comic-Con d'avoir comme assistant ce type-là. Et on va découvrir pourquoi, parce que derrière, bien sûr, il y a une histoire criminelle. Il a besoin de lui, il doit se servir de lui pour quelque chose. Je ne vais pas vous en dire plus. Si ce n'est qu'on retrouve, comme toujours chez Brubaker, cette faculté, cette facilité qu'il a à mélanger... le polar classique avec des éléments de culture populaire, des choses qu'on avait déjà vues dans l'excellent Fondu au noir où il invitait Dashiell Hammett dans la BD, enfin voilà, des personnages réels mélangés à la fiction, c'était très très intéressant. Alors c'est pas du niveau de Fondu au noir qui est un chef-d'œuvre, hein, l'une des meilleures BD de Brubaker et Sean Phillips, mais je ne saurais que vous conseillez cette BD donc qui s'appelle Sale Weekend et qui est disponible chez Delcourt et qui est donc signée Ed Brubaker, Sean Phillips et Jacob Phillips. Mais assez parlé BD, je vais laisser Thomas vous causer d'un livre qui semble-t-il a tapé dans l'œil d'un certain Jordan Peele.
En effet, je vais parler de Lovecraft Country de Matt Ruff. Matt Ruff qui n'est pas un inconnu en France parce que quatre de ses romans ont déjà été traduits, parmi lesquels un requin sous la lune en folio SF, La proie des âmes chez Point ou encore Bad Monkeys que l'on peut trouver chez 10-18. Matt Ruff aborde à travers ses écrits différents genres comme la science-fiction, le policier ou le fantastique, comme pour le livre qui nous intéresse aujourd'hui, même s'il est vendu sous la bannière fantasy. En effet, en 2019, Lovecraft Country, son sixième roman à ce jour, se voit décerner le prix du site consacré à la fantasy sur tout support, elbakin.net, du meilleur roman de fantasy traduit. L'intrigue se situe dans les années 60, dans les États-Unis ségrégationnistes, et suit une famille assez proche, celle d'Atticus Turner. Vétéran de la guerre de Corée, Atticus Turner a quitté Chicago pour vivre en Floride. Mais il reçoit un courrier de son père, avec qui il entretient une relation plutôt orageuse, hein, et qui l'incite à revenir à Chicago. Son père, visiblement, semble l'appeler à l'aide ou quelque chose comme ça. Une fois sur place, il apprend que son père est parti depuis quelques jours avec un blanc, ce qui étonne Atticus, étant donné que son père a quelques comptes à régler avec les blancs. Le jeune homme part alors à la recherche de son père, accompagné de son oncle George et d'une amie d'enfance, Laetitia, en route vers une mystérieuse ville reculée, Ardham, et non pas Arkham, Ardham. Véritable hommage aux écrits de Lovecraft, mais aussi aux romans de science-fiction de l'époque auxquels il y fait référence, Atticus étant un fervent lecteur non seulement de Lovecraft, mais de J.J. Ballard et d'autres auteurs de cette trempe. Lovecraft Country propose une lecture assez originale de la ségrégation. À travers le périple de ces trois personnages, Matt Ruff décrit bien la difficulté de se déplacer dans un pays où le racisme est la norme, où être noir et être arrêté par un shérif pour une broutille revient à risquer sa vie si l'on dit un mot de trop. En fait, même si Lovecraft est convié dans le titre, il n'y a pas de dieu indicible ou de créature tentaculaire dans le roman. L'originalité réside surtout dans le fait qu'il associe l'idéologie ségrégationniste avec les cultes de sorciers qui ont soif de pouvoir. Et pour arriver à leur fin, ces sorciers n'hésitent pas à utiliser ou sacrifier les populations noires. Le livre est écrit dans un style assez simple, avec un peu d'humour, sans que cela ne l'empêche d'être particulièrement réaliste quand il s'agit de décrire les violences racistes. Matt Ruff dépeint avec précision la vie de ses descendants d'esclaves, les histoires de dettes que les esclavagistes ont contractées en exploitant leurs aïeux, les questions de réparation ou d'accès à la citoyenneté. En fait, le roman il se découpe en plusieurs parties qui s'attachent à différents personnages, tous de la même famille ou alors des proches de la famille, qui se retrouvent dans les filets d'un seul et même homme, Caleb Braithwaite, sorcier qui cherche à s'accaparer le pouvoir de toutes les loges de son ordre du pays. Au cours de ces différentes aventures, on y croise des policiers racistes, des récits d'émeutes, des fantômes, on visite des planètes lointaines et les coins les plus reculés des États-Unis, ce qu'on qualifiera aujourd'hui l'Amérique de Trump. Cependant, les personnages et les situations s'avèrent complexes et loin de tout traitement stéréotypé. Le livre se révèle d'une double actualité plus que brûlante, dans un premier temps parce qu'il s'inscrit dans la contestation suite aux différents meurtres racistes qui font encore malheureusement la une des informations aux États-Unis, mais aussi parce qu'il est adapté à la télévision sous la forme d'une série par un certain Jordan Peele, comme tu viens de le dire, GG. Bon, seulement, d'après la bande-annonce, j'ai l'impression que l'univers de Lovecraft sera un peu plus présent, apparemment, avec la présence d'un peu plus de créatures que dans le roman, où on est plus dans un fantastique ésotérique. Et là, dans la série, j'ai l'impression qu'il y aura plus de monstres.
On va terminer nos conseils lecture avec un ouvrage que moi je vous conseille pour cet été. Hein. Il s'appelle 8865. C'est un livre de Dominique Legrand qui est paru chez Hugo New Way. Alors c'est une œuvre assez addictive hein, qui est écrite à la manière d'un thriller avec des chapitres courts, percutants, ce que les anglo-saxons appellent un peu un page-turner. Voilà. Un livre qui nous compte une prise de conscience chez une mère, actrice, et sa fille adolescente. Alors on va entrer tout de suite en ligne, en contact avec l'auteur de cet ouvrage, Dominique Legrand. Bonjour Dominique.
Bonjour Jérôme.
Alors ton ouvrage, bon je l'ai dit, hein, ça raconte l'histoire d'une actrice et de sa fille qui ont une prise de conscience. Alors si je dis que le livre est édité aussi avec le soutien de l'association L214, on va peut-être un peu mieux saisir un peu l'univers dans lequel évolue l'ouvrage. Pour moi, c'est un livre un peu idéal à emmener sur la plage, parce que voilà, il y a le côté addictif, le côté thriller. Est-ce que tu peux nous le présenter, toi, ton livre ?
Oui, tout à fait. Alors c'est un roman jeunesse. Je suis resté longtemps effectivement à me demander si c'était un roman adulte ou un roman jeunesse. Et puis finalement, quand j'ai commencé l'écriture du roman, je me suis aperçu effectivement que ça s'adressait beaucoup plus à un public adolescent, Alors, ce qu'on appelle young adult, en fait, en matière d'édition aujourd'hui, c'est-à-dire des ados, enfin, ça commence à 13-14 ans, et puis ça peut arriver jusqu'à l'âge adulte. Hein. Donc, c'est à la fois à lire par des adolescents et des adultes. Et voilà, donc c'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, pour des tas de raisons. J'avais déjà écrit sur les animaux, en littérature jeunesse aussi, deux fois. Un roman qui parlait d'un chat où je mêlais effectivement la vie d'un chat et la vie d'un épisode qui avait été vécu par mon grand-père pendant la guerre. Et puis récemment, enfin, en 2018, j'ai écrit une nouvelle aussi qui avait comme sujet un cochon cette fois-ci. Et c'était un recueil de nouvelles qui prenait des animaux pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, qui fallait illustrer 10 animaux justement qui avaient eu un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Alors, bien sûr, il y avait des pigeons, il y avait des chevaux, il y avait des chiens, il y avait toutes sortes d'animaux. Et j'avais pris un cochon qui servait de mascotte d'un régiment. Sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, le cochon, on se demandait, il grossissait à vue d'œil. Est-ce qu'il avait encore un rôle de mascotte ou est-ce qu'il pouvait remplir les assiettes? Et bon, là, je suis parti sur une direction opposée, enfin opposée, différente, tout au moins. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans l'écriture de ce roman, ce sont effectivement les vidéos qui ont été postées, enfin qui sont postées régulièrement par L214 depuis plusieurs années maintenant, et qui des vidéos qui ont été tournées bien sûr à l'insu du personnel des abattoirs et qui effectivement dénoncent des conditions à la fois de transport absolument abominables, d'élevage, de transport et bien sûr d'abattage qui sont d'une cruauté sans nom. Qui sont très 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 éprouvantes, enfin vraiment traumatisantes effectivement pour les animaux qui vont être abattus, et à la fois pour le personnel qui vit et qui travaille dans ces conditions là. Et j'ai été terriblement impressionné par ces vidéos, à tel point que j'en ai changé mon mode alimentaire. J'ai arrêté depuis maintenant plusieurs années de consommer de la viande. Alors, il m'arrive encore de consommer de temps en temps du poisson, voilà, pas systématiquement à tous les repas, et parfois des semaines où je ne mange ni poisson ni viande. Enfin, de la viande, j'en mange plus depuis quelques années, mais enfin pas de poisson forcément pour substituer. Et voilà, je suis parti dans une idée de l'histoire d'une femme, effectivement, qui est comédienne, donc qui a une trentaine d'années, qui vit à milieu de cet univers de maltraitance des animaux, qui a une fille, qu'elle élève seule à Paris, et qui a connu un peu une période de une traversée du désert, on pourrait dire, et sa carrière reprend. Donc elle est en tournage d'un film, et puis au cours d'un week-end, elle se rend avec sa fille chez ses parents, qui habitent en Normandie. Et en fait, elles ont l'habitude d'aller près d'un champ et elles vont, on peut dire, se prendre d'amitié, d'affection pour finalement une vache et son veau qui sont dans un champ à côté d'elles et à côté de chez eux. Et elles y vont régulièrement et puis un jour, elles arrivent dans ce champ et elles vont assister à l'enlèvement du veau, si on peut dire, par deux fermiers qui viennent sans ménagement prendre le veau de cette vache, le mettre dans une camionnette et puis finalement le séparer de sa mère. Et ça va créer une sorte de traumatisme en fait chez non seulement chez l'adolescente mais aussi chez la mère, chez cette comédienne. Et à partir de ce fait qui est anecdotique, qui doit se produire un millier de fois dans les champs de Normandie, Bretagne et autres, en fait il se fait que ces deux personnes qui sont des Parisiens, qui sont pas forcément habitués à ce type de scène qu'on peut voir naturellement à la campagne. Cette mère et sa fille sont extrêmement impressionnées. Ils vont prendre finalement conscience d'une réalité qui existe, dont elles n'ont pas forcément, qu'elles n'avaient pas réalisé jusqu'ici, qui est celle en fait de la maltraitance envers les animaux, non seulement pour obtenir envers les vaches, non seulement pour obtenir de la viande, mais aussi pour obtenir du lait. Les vaches qu'on engraisse et à qui on fait faire des veaux à répétition, parce qu'une vache qui n'attend pas de veaux, elle peut pas fournir de lait. Donc, à force de pour obtenir du lait en permanence, il faut que ces vaches soient allaitantes, et donc elles attendent constamment des veaux. Et elles vont découvrir en fait cet aspect de l'agriculture, qui est une agriculture intensive, hein, qui est pas tout à fait le reflet de toute l'agriculture en France, mais une grosse partie quand même. Et voilà, ils vont prendre conscience et ça va devenir un combat personnel, si on peut dire, puisqu'elles vont se mettre dans l'idée de sauver cette vache et un de ses veaux, parce que bon, elle va avoir encore un autre veau après cette vache, de sauver cette vache et son veau, finalement, du destin qui leur est promis, c'est-à-dire l'abattoir. Voilà le point de départ, en fait, du roman.
Bah écoute, Dominique, c'est avec ça. On n'a pas donné envie de le lire. Ça donne faim ? Non, je plaisante, c'est une plaisanterie. En tout cas, moi, déjà, c'est vrai, roman jeunesse, bon, je rassure, hein, c'est pas. Mais si on n'est pas ado, on peut le lire. Hein. Moi, je l'ai lu d'une traite. Écoute, moi, ce que je te propose, Dominique, puisqu'on est en direct et que c'est la dernière émission de la saison, c'est qu'on se revoie à la rentrée et puis qu'on parle un peu de nouveau de l'ouvrage, mais à travers, je fais un peu de comment dire, hein, je tease un peu la rentrée là, mais je pense qu'on se retrouvera, on parlera des animaux dans la fiction. Je pense que c'est une idée d'émission qui me trotte dans la tête depuis fort longtemps. Écoutez toujours Culture Prohibée. Et après nos conseils lecture, voici ce concernant les films. Quelle galette allez-vous enfourner dans vos lecteurs durant cet été qui s'annonce caniculaire, hein, voilà, parce que là, on est en train littéralement de fondre dans le studio. Tout d'abord, on vous rappelle que sur le blog de notre émission, donc Culture Prohibée, donc culture-prohibée, pardon, .blogspot.fr, vous allez pouvoir prendre connaissance de critiques, de livres et de différents films que le temps, et puis surtout le coronavirus, nous ont empêchés d'aborder dans les émissions au fur et à mesure des sorties. N'hésitez pas également à aller sur notre chaîne YouTube, à vous plonger dans nos lives. Hein, alors, on est mieux à la radio qu'en live, hein, mais bon, voilà. Mais on a quand même aussi dans les lives chroniqué quelques sorties qu'on n'a pas pu aborder dans l'émission de radio. Et puis enfin, à titre d'information, l'extraordinaire film de science-fiction de Saul Bass, Phase 4, déjà longuement abordé sur notre blog en compagnie de Franck Laffont, se verra consacrer à une émission à la rentrée. Je dis ça pour tous les fans du film, et je sais qu'ils sont nombreux. Et je vais maintenant passer la parole à notre ami Damien, que l'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure, qui est très sage, et qui est venu avec plusieurs films d'animation. Il y a la trilogie Psychopass, hein, Sinner of the System, de Naoyoshi Shotani, qui est sorti chez Kana, et Justice League Dark Apocalypse War, de Matt Peters et Christina Sota, qui est sorti chez Warner.
Je suis très heureux de pouvoir vous parler de Psychopass, qui est une série animée japonaise que je regarde depuis le début. Alors, question logique, qu'est-ce que c'est Psychopass ? Psychopass, donc, se passe au Japon dans un univers cyberpunk un peu dystopique. Dans cet univers-là, le Japon s'est fermé à un moment après une crise et tout son système juridique est fait par ce qu'ils appellent le système Sibyl, qui est en gros un gros ordinateur qui peut lire le psychopass des gens. Et donc, le psychopass, puisqu'on y vient, c'est en fait une échelle qui permet d'estimer une personne si elle est mentalement saine ou bien proche de la folie. Et donc, ceci s'expérimente à travers des couleurs qui sont indiquées. Tout le monde, normalement, a un certain psychopass sain dans tous les jours, et ceux qui ont un niveau élevé se font à ce moment-là arrêter par la police. Et l'une des choses qui rend cette série iconique, ce sont les armes utilisées par les policiers, qui s'appellent des dominateurs, qui ces armes contrôlent le psychopathe des gens face à qui ils se trouvent. Si le psychopathe est bas, l'arme reste en veille. S'il est élevé, l'arme passe en paralysie. Et s'il est très élevé, l'arme passe littéralement en désintégration de la personne en face. Les policiers qui utilisent ces armes sont en deux groupes. Vous avez un premier groupe qui sont les inspecteurs de police qui mènent l'enquête et les exécuteurs qui sont des personnes qui ont un psychopass élevé mais qui ont subi soit qui sont allés dans les hôpitaux pour être traités et qui ont ensuite été intégrés en tant qu'exécuteurs, soit ce sont des anciens inspecteurs qui, à force de côtoyer les meurtres et la folie des gens, ont eu un psychopass qui est devenu sombre. Et donc, de base, la série avait seulement deux saisons et un film, et ces trois films qui viennent de sortir annoncent en fait une troisième saison qui va bientôt débarquer. Donc dans ces trois films, ça nous permet d'explorer en fait le monde qui s'est développé, parce que dans les premières séries, ce qu'on avait, c'était essentiellement le Japon, qu'est-ce qui s'y passait, et les films en fait restent un peu au Japon, mais aussi s'attardent sur regarder le monde, qu'est-ce qu'il est devenu, et j'aime particulièrement l'avenir des casques bleus de l'ONU. L'une des grandes forces de Psychopass, c'est qu'ils arrivent à mêler, c'est qu'ils reprennent les codes en fait de ce qu'on peut avoir dans les séries policières anglaises ou américaines qui sont très bien faites, et toute la SF telle que le Japon l'a connue avec Ghost in the Shell ou encore Akira. Donc ce qui fait de Psychopass une fusion entre Luther ou True Detective et Blade Runner, ce qui en donne un résultat vraiment excellent. Et ce qui est vraiment très... ce que je trouve absolument génial avec cette série, c'est que justement, en plus d'avoir tout ce côté policier, ils y intègrent les codes de tout ce qui est réflexion philosophique. Car l'arme ne peut arrêter une personne uniquement si le système Sibyl reconnaît qu'elle a un psychopass élevé. Ce qui veut dire que parmi les premières saisons, on se retrouve avec des criminels qui ont un psychopass très faible. Et ça empêche les inspecteurs de police en fait d'arrêter les meurtriers. Et c'est une série qui pose beaucoup de questions philosophiques, mais j'aime beaucoup celle-ci qui est en fait comment on arrête Monsieur Tout-le-Monde ? Comment on arrête quelqu'un dont le système judiciaire lui-même reconnaît instantanément qu'il est innocent malgré tous les crimes qu'il commet ? Donc les films, pour moi, c'est avant tout quelque chose qui est adressé aux fans, puisque la saison 3 va bientôt sortir, mais d'après les images des trailers et des teasers, on ne retrouvera pas forcément les personnages des premières saisons. Et donc, si vous êtes un fan de Psycho-Pass, mettez la main sur le film. Si vous n'êtes pas un fan de Psycho-Pass, alors je ne sais pas ce que vous attendez pour aller regarder cette série animée qui est absolument géniale. Et je suis toujours aussi heureux de vous parler de Justice League Dark Apocalypse War, de Matt Peter et de Christia Sota, qui est en fait pour moi une véritable claque, je ne m'y attendais pas. Si vous voulez, c'est un film qui clôture 10 ans de DC Animated Universe. Et de base, cette série de films a commencé soit avec Flashpoint Paradox, qui était l'adaptation du comics événement qui lançait les New 52, soit Justice League War, qui était le premier comics en lui-même, qui a également été adapté. Et ces deux adaptations animées sont impressionnantes parce qu'en soi, elles sont fidèles et elles arrivent à parler à beaucoup de monde. Ensuite, ils se sont un peu perdus dans des adaptations un peu plus libres, toujours de Justice League. On a eu des Batman, des Suicide Squad, des Teen Titans, qui sont tous entre eux très inégales. Et ici, la particularité, c'est qu'on suit en fait la suite de Justice League Dark, donc la Justice League qui d'habitude s'occupe de tout ce qui est magie et tout ce qui est un peu sombre dans le DC Universe, qui déjà je trouvais bon, voire très bon à voir. Et ici, on met donc une équipe de super-héros dont la spécialité est la magie. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que déjà pour le premier, on avait un contenu drôle et mature, où on retrouvait des bad punchlines et un Constantine toujours aussi cynique aimant fumer des cigarettes. Et dans Justice League War Apocalypse, c'est surtout un scénario assez particulier parce que le film commence justement sur la Justice League, surtout la Trinité, Superman, Wonder Woman et Batman, qui appellent tous les membres pour aller arrêter Darkseid avant qu'ils mettent un plan en exécution toujours terrible. Et en fait, la bande-annonce en soi est très floue et je suis désolé de devoir vous gâcher les 10 premières minutes parce que ce qui se passe, c'est que la Justice League du coup débarque sur Apocalypse et Darkseid et son armée massacrent, tuent, déchiquent, éborgnent, démembrent tous les membres de la Justice League qui ont voulu essayer de l'arrêter. Et tous ceux qui ne sont pas tués sont asservis, notamment Batman qui devient son fidèle bras droit. Et en fait, dès l'introduction, on a affaire à un univers brutal et très dur à voir. On se retrouve avec une Terre dévastée, vu qu'après que Darkseid ait vaincu la Justice League, il se dit « bah, je vais me faire la Terre ». Et du coup, le film commence exactement après 10 minutes, 2 ans après que Darkseid ait tué toute la Justice League et asservi la Terre. On se retrouve donc avec une histoire infernale autour des survivants. Et c'est un film brutal, sanglant, très pessimiste. On a un DC Universe qui est très sombre, noir et absorbant, un peu comme un trou noir. Et c'est une véritable épreuve de le regarder. C'est ce qui rend ce film incroyable, vu que je ne m'attendais pas à ce que DC, d'un coup, se dise toute la noirceur qu'on n'a pas mis dans les précédents films, on va la ressortir maintenant. Darkseid est un méchant qui est montré dans toute sa puissance, sa cruauté et même sa stratégie. Et le film offre la pire fin possible qu'on pouvait donner à un univers étendu. Et je crois pour moi que c'est une très bonne fin. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, vu le résultat qu'ils viennent de nous offrir.
Ah ben écoute, au moins ça fait un peu plus rêver que les versions live, hein, voilà, faites pour le cinéma, qui sont quand même assez catastrophiques. Thomas, toi tu es venu avec dans ta besace une adaptation, ma foi quand même méconnue, hein, de Boris Vian.
Oui, L'écume des jours, adapté par Charles Belmont en 1968. C'est donc l'adaptation du roman, du célèbre roman L'écume des jours, hein, qui raconte l'histoire de 4 ou 5 jeunes qui découvrent la vie, en fait, qui découvrent l'amour, la maladie, la vie. Enfin, c'est un peu un roman d'initiation. Et donc Charles Belmont le met en image. Et c'est une adaptation plutôt libre, hein. C'est pas une adaptation littérale comme l'a fait l'horrible Michel Gondry.
Le film est horrible, mais Michel Gondry n'est pas horrible, sois pas comme ça, Thomas. Si, tu es dur.
Il est horrible, Michel Gondry, il est horrible. C'est un clipper, hein, je le rappelle, c'est un clipper. Voilà, tu m'as fait perdre le fil, j'ai perdu le fil. Donc c'est une adaptation plutôt libre. Qui n'est pas littéral au sens strict du terme. Moi, c'est un film que j'aime bien. Je trouve qu'il y a un rythme assez lent. C'est un film assez contemplatif qui ne plaît pas à tout le monde, n'est-ce pas, messieurs,
hein ? Oh, écoute, bon, on peut pas toujours avoir bon goût, Thomas, que veux-tu que je te dise?
Bah, je sais bien, toi t'aimes bien Christopher Nolan. Donc c'est un film plutôt assez lent. On navigue entre, effectivement, oui, tu dis le cinéma d'auteur, mais c'est aussi un film fantastique, ou entre le fantastique et la science-fiction. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que le film, bon, il est ancré dans son époque, hein, les années 60. Il anticipe un peu d'ailleurs mai 68, et à un moment, on voit un peu une manifestation au fond du plan alors que deux personnages sont en train de discuter. C'est un film qui anticipe un petit peu mai 68 et je trouve qu'il distille des petits éléments fantastiques ou de science-fiction et il arrive à les ancrer dans l'époque dans laquelle ils sont. Donc on ne sait pas très bien si c'est un film de science-fiction, un film fantastique ou une dystopie parce qu'on a l'impression quand même que qu'ils sont sous un régime autoritaire quelque part. Il y a des petits indices qui pourraient laisser penser, qui pourraient laisser croire ça. J'aime bien le film, ça fait un peu bricoler, c'est des choses que j'aime plutôt bien. Et c'est aussi un film, c'est le premier long métrage de Charles Belmont. Il avait déjà fait un court métrage avant, d'après Franz Kafka, Fratricide. Et c'est le premier long métrage, et je trouve qu'il développe déjà des thèmes qu'on retrouvera plus tard dans son cinéma, c'est-à-dire le rapport au travail, la lutte des classes. Ce sont des choses qui sont très présentes dans son cinéma par la suite. Et je trouve que la réflexion sur le travail est déjà intéressante dans celui-là. Aussi le rapport à l'administration médicale, à tout ce système-là que moi je trouve pas inintéressant dans le film. Moi je trouve que le film se suit bien, c'est un beau cinémascope, je trouve qu'il y a des idées de mise en scène. Moi je trouve que c'est un bon film.
Eh bien Thomas, on va finir sur cette note concernant ce film, parce que je crois que Damien est comme moi, il n'a pas accroché à l'univers du film.
Non, je ne suis pas rentré dans le film et je suis assez d'accord avec Thomas sur un point qui était justement que quand je regardais le film, je trouvais ça assez drôle. On avait un univers étrange qui tirait sur le fantastique. Il y avait vraiment des moments où j'avais l'impression de voir des pointes de science-fiction, un peu comme Fahrenheit 451 de Truffaut, si je ne m'abuse, qui reprenait un peu cet élément que j'aime beaucoup, qui est se dire on va faire du futurisme, on prend un peu les objets qu'on a du quotidien, comme des camions qui finalement sont. On essaie de les transformer en objets futuristes, mais nous on voit bien que c'est des vieux camions et j'aime beaucoup ce côté-là. Mais oui, pour le coup, je ne suis pas rentré dans le film, mais je suis aussi d'accord, encore une fois, avec Thomas sur ce point-là, c'est qu'il y a des visuels qui sont vraiment charmants et très beaux à regarder.
Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté.
Vous écoutez toujours Culture Prohibée et au rayon Blu-ray DVD de l'été, nos amis de chez Carlotta ressortent Tutsi. Alors Tutsi, film de Sidney Pollack qui nous raconte l'histoire de Dustin Hoffman qui se grime en femme, hein, voilà, pour pouvoir travailler. Hein. Alors. Le film, c'est un peu le moment où Pollack, après pendant des années avoir été presque un espoir du nouveau, enfin sans y être vraiment, mais voilà, il était pas très loin du nouvel Hollywood. En tout cas, il y avait de la politique, il y avait des idées dans ses films, il y avait les Trois Jours du Condor, il y avait Jeremiah Johnson. Et à partir de ce film, sa carrière commence à basculer. C'est le film du basculement, c'est avant qu'il tombe dans le mélo. Et je trouve quand même que Tutsi a pris un petit coup de vieux, voilà. Et par contre, l'édition de Carlotta est assez. Est assez fabuleuse puisque c'est un ultra collector comme d'habitude, il y a le bouquin, il y a tout ce qu'il faut, enfin bon voilà. Pour ceux qui sont fans du film, je vous le conseille. On va dire que c'est un morceau d'histoire du cinéma engagé, mais ça a pris un coup de vieux. Voilà. Et puis aussi, toujours chez Carlotta, alors je me dépêche un peu parce qu'on est pris par le temps. Voilà, puis on a envie de parler de quelques super films à la fin de l'émission. Il y a un documentaire de qui s'appelle Phil Tippett, des rêves et des monstres, qui est donc un documentaire signé signé pardon, Gilles Panceau et Alexandre Poncet, qui est donc sur Phil Tippett, hein, le fameux maître des effets spéciaux, hein, voilà, l'héritier de Ray Harryhausen, hein, le roi de la stop motion. Et si vous voulez tout savoir, tout découvrir sur Phil Tippett, eh bien, regardez ce documentaire. Je ne vous en dis pas beaucoup plus parce qu'on devrait retrouver l'un des deux réalisateurs dans l'émission à la rentrée. Voilà. Donc je fais un peu encore un teaser. Voilà. Je vais enchaîner maintenant avec ce que je vais appeler le Soviet Package d'Artus Film. Artus Film qui nous sort donc L'Étoile du Silence de Kurt Metzig, un film de la RDA, et oui les amis, la RDA, un film de 1960, et qui nous sort Signal, une aventure dans l'espace de Gottfried Kolditz, un film de 1970, toujours produit en RDA, cette fois-ci avec la Pologne. Et enfin, pour terminer sur les trois films, il y a Vige ou le Diable, un film soviétique donc réalisé par Konstantin Hertchov et Georgi Kropachev, et non pas Gorbatchev, en 1967. C'est produit par la Mosfilm et c'est adapté de Nicolas Gogol. Voilà, on ne présente plus Nicolas Gogol. Alors, la première production SF de la DEFA, hein, voilà, la DEFA, c'est une fameuse boîte de production de films en RDA, a été L'Étoile du Silence. Et L'Étoile du Silence donc, débarque chez Artus. C'est adapté d'un roman de Stanislas Lem. Alors, qui est Stanislas Lem? Ça me dit vaguement quelque chose. Mais oui, parce que c'est le type qui a écrit Solaris. Voilà. Et donc, ça décrit un voyage sur Vénus d'un équipage de terriens venus des quatre coins du globe. Et c'est un plaidoyer anti-nucléaire et pro-communiste, évidemment. Il ne faut pas déconner non plus. Alors, c'est assez laborieux dans sa première partie. Et dans la deuxième partie, enfin, dès qu'on arrive sur Vénus, c'est plastiquement sublime. Et alors là, c'est un festival de décors colorés, d'images vraiment marquantes. C'est digne du travail de William Cameron Menzies, hein, pour ceux qui connaissent, hein, avec L'Invasion vient de Mars, par exemple, même si le propos est contraire, là. Mais le visuel, voilà, on est dans un univers comme ça. C'est vraiment, c'est une curiosité, mais plus qu'une curiosité, c'est à voir. Mais encore mieux, c'est le film qui est réalisé 10 ans plus tard, c'est Signal, une aventure dans l'espace. C'est seulement la deuxième incursion de la DEFA dans la science-fiction. Et là, c'est l'histoire du sauvetage d'un vaisseau victime d'une pluie d'astéroïdes et dont les signaux, en fait, posent question. On se demande si ce sont eux qui se mettent à contacter la Terre pour être sauvés ou si ce sont des extraterrestres. Ah oui, attention, gros mystère, gros suspense. C'est beaucoup plus barré et surréaliste que L'Étoile du Silence. C'est tout aussi naïf, hein, par contre. Mais c'est vraiment une œuvre là, à la limite du surréalisme et réellement du surréalisme, hein, c'est-à-dire... La pipe ou pas la pipe de René. Et donc ça ose beaucoup, il y a un dessin animé, mais en plein milieu, comme ça on nous met un dessin animé, voilà, ça part dans tous les sens, et pour moi même si le récit, il y a des problèmes d'écriture, le récit est parfois déroutant, pour moi c'est une véritable pépite, c'est une pépite méconnue, voilà. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vige ou le diable, qui est un film soviétique, un film incroyable, qui raconte l'histoire d'un séminariste qui le week-end rentre chez lui, hein, voilà, avec ses amis, et puis ils se mettent à embêter, enfin ils se perdent, et puis ils sont obligés d'aller dormir quelque part, et donc ils crient comme ça dans la nuit, dans la Russie sauvage, voilà. Et lui, c'est un cosaque qui n'a peur de rien, voilà, il le dit toujours dans le film, en fait, il est très effrayé, hein, mais bon, il dit toujours qu'il a peur de rien. Et il trouve refuge dans la vieille ferme d'une vieille dame, voilà, chacun a des endroits différents de la ferme, et là, la nuit, le cosaque, qui est surnommé le philosophe, parce que c'est visiblement un haut gradé, si j'ose m'exprimer ainsi, dans la bande de séminaristes qui est là. Et il se retrouve confronté à cette vieille dame. Il croit que cette vieille dame vient pour consommer, faire l'acte de chair. Hein, voilà. Alors, il lui dit non, madame, voyons. Et là, tout à coup, c'est une sorcière. Elle l'ensorcelle. Elle monte sur son dos, ils se mettent à aller dans le ciel, ils voyagent comme ça et tout. Et puis, il arrive à s'en débarrasser. Il la laisse vaguement pour morte. Elle se transforme en une très belle jeune femme, voilà. Et quelques temps plus tard, il y a un homme dans un village reculé qui demande à ce qu'il vienne prononcer les derniers sacrements de sa fille décédée. Et ça va être 3 nuits infernales pour lui parce que cette fille décédée, c'est cette sorcière, en fait. Voilà, cette charmante jeune femme, c'est cette sorcière. Et donc, il va avoir à subir, à combattre des démons comme ça pendant 3 nuits. C'est un film pour moi fabuleux, très très beau. quand je regarde ce film, j'oublie tout. Voilà, je suis complètement transporté dans le film. C'est d'une beauté plastique sidérante. Et voilà, je trouve que c'est un film unique que j'avais découvert gamin en regardant Cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Je l'ai revu avec le même plaisir. Je ne l'avais pas revu depuis que je l'avais vu gamin. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment un grand film fantastique. N'est-ce pas, Thomas ?
Oui, en effet, c'est une adaptation très fidèle de la nouvelle de Gogol qu'on peut trouver dans la grande anthologie du fantastique de Jacques Guamard et Roland Stragliati. C'est un film qui est effectivement très étonnant parce qu'à la fin, il y a plein de monstres. Il y a plein de monstres qui sortent des enfers pour aller punir cet homme. Parce qu'en fait, c'est une punition qu'on lui donne là. Quelque part. Et c'est un film qui est effectivement très étonnant face à ça, cette multitude de monstres qui apparaissent dans le dernier quart d'heure. Hein. Et c'est un film effectivement qui est très beau plastiquement, comme tu le dis, et qui est un classique du cinéma russe fantastique, effectivement.
Écoutez toujours Culture Prohibée. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, hein, on ne peut pas trop développer, donc on va aborder assez rapidement. Alors, les dernières sorties Spectrum Film, d'abord. Il y a deux films dont je n'aurai pas le temps de vous parler, je vous en parlerai à la rentrée, mais je vous les conseille. C'est The Great Buddha Plus de Wong Xin-yao et Godspeed de Chung Mong-ong. Alors là, je vais vous parler par contre de deux super films qui sont sortis chez Spectrum Film. C'est deux films de Ronny Yu. Il y a The Savior, son second long métrage, son premier en solo, hein, qui est sorti en 1980 avec Pei Ying. Alors Pei Ying, vous le connaissez parce que c'est celui qui fait toujours les méchants dans les films de King Wu. Voilà. Et immense cinéaste King Wu. Voilà. Et là, ici, il fait une sorte d'inspecteur Harry hongkongais dans ce film très, très, très étrange. Aujourd'hui considéré comme faisant partie de la nouvelle vague hongkongaise. Alors, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé lors de la saison précédente de Cops and Robbers d'Alex Chung, qui est toujours disponible chez Spectrum Film. Pardon. C'est un film avec une très belle photo de Tony Hope. Tony Hope, qui est le maître hein, de la nouvelle vague hongkongaise. Alors, nouvelle vague hongkongaise, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est des films dont on a l'impression qu'ils sont tournés, voilà, enfin, on n'a pas l'impression, ils sont tournés dans la rue, ils sont tournés avec un style documentaire, mais en même temps aussi un style très travaillé. Hein, on le voit durant toute la première partie du film, parce que là, c'est Inspecteur Harry hongkongais, aux premières parties du film, il poursuit un mec sur un toit, il le descend, et il y a une science du découpage, du montage qui est extraordinaire. Les premières minutes sont très impressionnantes. Après, on lui file un coéquipier et il doit traquer un tueur en série. Alors là aussi, intéressant parce que le tueur en série, il est filmé comme dans les films de De Palma, comme dans les films de John Carpenter aussi. Il y a un mélange aussi avec le giallo parce que Ronny Yu, il a passé une partie de sa jeunesse aux États-Unis. Donc, il a une esthétique bien particulière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un tueur. On sait tout de suite qui c'est, hein, le tueur. C'est un fils de bourgeois qui a vécu un trauma. Ce fils de bourgeois, en fait, s'en prend vraiment au lumpen prolétariat parce qu'il assassine des prostituées. Voilà. Donc, et l'inspecteur va mener son enquête. Alors, c'est un peu bancal au niveau de l'écriture. Alors, on n'a pas énormément le temps de développer, mais enfin, en tout cas, je vais vous dire que c'est un film. Bon, l'intro est superbe, grande science du découpage. Et en plus, la thématique du tueur en série à l'époque n'était jamais abordée dans le cinéma. Donc, je vous conseille grandement grandement ce film The Savior, ce film de Ronnie Yu qui en plus est un incunable, un introuvable, hein, voilà, même en VHS, très compliqué à trouver. Et 10 films plus tard, en 93, on retrouve Yu pour son chef-d'œuvre. C'est bien sûr avec Le Maître d'Armes aussi, qui est un grand film, hein, avec Jet Li, qui est sorti en 2006. C'est un film de Wuxia Pan qui transpose donc Roméo et Juliette dans l'univers du Wuxia Pan. C'est The Bride with White Hair. Voilà, film de 93 avec une narration ambitieuse, complexe, tout en flashback, avec des grandes ellipses, parfois des flashbacks dans le flashback. Enfin, voilà, il faut suivre. C'est un formidable travail de studio avec une esthétique magnifique, j'ai envie de dire presque magique, comme le sujet du film où les teints ocre et les tons bleutés s'affrontent comme ça. Bon, faut pas être allergique au Wuxia Pan et puis à la grandiloquence, par contre, du cinéma HK, où, y compris par moments, il y a des scènes érotiques qu'on dirait tout droit sorties d'un téléfilm de deuxième partie de soirée d'M6 des années 90, érotique soft, voilà. Et c'est quoi cette histoire? Ben, c'est une histoire toute simple. Le héros qui est campé par Leslie Cheung, hein, qui s'appelle Cho Yi Hang, fait partie, alors l'histoire n'est pas toute simple en fait, je dis ça comme ça, fait partie de la secte Wu-Tang, qui est une des 8 sectes qui dirige la Chine pour la dynastie, pour l'empereur et la dynastie Ming. Et au début du film, il est vieux, on voit que des soldats de l'empereur veulent récupérer une plante qui pousse tous les 20 ans, à qui on donne des pouvoirs, des vertus curatrices, et il les tue tous les 3 dans un déluge de sang, des geysers de sang, évidemment. Et on découvre son histoire, et en fait, lui, il était tombé amoureux de la louve, qui va devenir The Bride with White Hair, hein, la femme aux cheveux blancs, la fiancée aux cheveux blancs, voilà, la mariée aux cheveux blancs plus exactement. Et il tombe amoureux de cette femme, mais il n'a pas le droit de tomber amoureux d'elle, puisque elle, c'est la grande exécutrice des gens qui ont été bannis des sectes et qui sont en fait des hérétiques et qui veulent renverser le pouvoir chinois. Et donc, leur histoire d'amour est impossible et ça va, bien sûr, mal se finir. Et il y a une suite qui est en bonus qui s'appelle The Bride with White Hair 2, qui est avec le film. Donc voilà, c'est plus anecdotique, c'est réalisé par le monteur du premier film. Voilà, et c'est moins extraordinaire, on va dire. Voilà. Chez Rimini, maintenant, je vais vous parler un peu de l'éditeur Rimini. Vient de sortir Police Frontière de Tony Richardson, un film de 82, un film assez tardif en fait. C'est l'histoire de la rédemption de Charlie, hein, campé par Jack Nicholson, qui est un policier de Los Angeles qui est muté à la frontière mexicaine du côté d'El Paso afin de surveiller l'immigration clandestine et surtout la corruption de la police locale qui est menée par Harvey Keitel et Warren Oates. Excusez du peu, hein. Il y a Ry Cooder à la musique, voilà, ça envoie du lourd. La photo de Rick Waite est magnifique. C'est celui qui a fait la photo, par exemple, du Cobra de George Pan Cosmatos. Et c'est l'histoire d'une rédemption, c'est la rédemption d'un homme, voilà. Et c'est un film qui fait écho aussi à la situation actuelle avec le mur, hein, avec le Mexique et tout le délire de Trump là-dessus. À voir absolument. Pas un film facile. Hein, voilà. Point limite aussi, de Sidney Lumet, 1964. Grand film également. L'histoire est simple. À la suite d'une erreur technique, un groupe de bombardiers nord-américains Vindicator, représenté par des convers B-58 Hustler, reçoit l'ordre d'atomiser Moscou. Voilà. Le président des États-Unis, campé par Henry Fonda, aidé de ses généraux et de ses conseillers, va tout faire pour convaincre les soviétiques qu'il s'agit d'un incident et empêcher le déclenchement d'une guerre générale nucléaire. Alors, il y a plusieurs personnages très attachants. C'est un huis clos, hein, voilà, qui se passe dans la salle des commandes. C'est incroyablement tendu, ça dure presque 2 heures. Sidney Lumet et son fameux style invisible, comment parle Jean-Baptiste Torret dans les bonus. Là, il est au summum, il y a des scènes d'une tension incroyable, le découpage est incroyable. Et donc, on retrouve Walter Matthau, qui est un professeur, en fait, pro-nucléaire. On retrouve Dan O'Hurley, qui fait le général Blackie, qui est très intéressant. Et il y a Larry Hagman et J.R. dans un petit rôle, puisqu'il est, le traducteur en russe du président états-unien. Et c'est pas facile, parce qu'eux, ils sont réunis dans un tout petit bunker, une toute petite pièce, et c'est très tendu, et Henry Fonda est sublime, superbe. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je voulais vous parler de le sillage de la violence de Robert Mulligan, toujours chez Rimini, que j'ai reçu hier. Je vous en parlerai plus longuement dans les émissions de rentrée. Et je voulais terminer les sorties Rimini avec Incubus de John Hough, qui vient de sortir, qui est quand même un film assez incroyable, un film d'horreur, hein, voilà, de 1981, avec en gros un incube fornicateur, voilà, et qui attaque, viole en fait ses victimes et les laisse pour mortes. Et donc un grand film que ce Incubus, enfin un grand film d'horreur, très très méprisé, pas aimé de la critique quand il est sorti, et un film vraiment flippant avec John Cassavetes qui est excellent, John Ireland aussi qui est pas mal dans un rôle de flic. John Cassavetes, c'est un toubib un peu étrange, et je vous conseille ce film. Je crois que Thomas tu aimes beaucoup aussi cet Incubus de John Hough.
Ah oui, c'est un film très malsain.
Donc un grand film malsain qu'on vous conseille, avec la fin qui est quand même assez glaçante, un film très violent.
Iris Bray n'aime pas.
On va terminer ce tour d'horizon des sorties de l'été avec quelques films plus politiques. Il y avait Queen and Slim de Melina Matsoukas qui est sorti chez Universal, mon petit Damien.
Oui, Queen and Slim de Melina que j'ai pu voir en salle quand elles étaient encore ouvertes. Qui est vraiment d'actualité. Pour résumer très rapidement, c'est l'histoire d'un rendez-vous Tinder qui tourne très mal. Donc Queen est la fille et Slim le garçon. Et alors que Slim ramène Queen, un policier l'arrête pour le fouiller. Et ce qui va se passer, c'est que Queen, qui est justement avocate, va justement tenter de filmer la scène, va demander au policier pourquoi est-ce qu'il arrête. La situation va dégénérer quand le policier va tirer par ailleurs sur Queen. Slim va essayer de se défendre et va tuer le policier par accident, ce qui va conduire à un road trip. Et ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est non seulement qu'il est très équilibré dans son discours, mais aussi qu'il récupère les codes typiques américains avec tout ce qui est road trip, crime et bandit. Et j'aime beaucoup sa quête de liberté.
Eh ben merci Damien. Alors il y avait aussi Mo Better Blues de Spike Lee qui est ressorti, et Jungle Fever. Alors Mo Better Blues sur l'univers du jazz, premier film de Spike Lee avec Denzel Washington, film de 90. Pas extraordinaire, voilà, c'est pas mon préféré. Je trouve que à la revoyeur, Jungle Fever sur une histoire d'amour impossible puisque entre deux personnes de deux mondes différents est beaucoup plus intéressant, mais là encore on essaiera d'en reparler plus longuement à la rentrée, puisqu'on est pris par le temps et qu'on voulait terminer par l'excellent et méconnu Blue Collar de Paul Schrader, qui est un film extraordinaire, voilà, où trois ouvriers et amis, Zek, interprété par Richard Pryor, Jerry par Harvey Keitel et Smokey par Yaphet Kotto, travaillent dans une usine de voitures à Détroit. Et une nuit, ils ont l'idée de voler le coffre-fort qui est dans le bureau du syndicat local. Voilà. Et rien ne va se passer comme prévu dans ce film, donc ce film passionnant, hein, qui à la base est une idée de Sidney Glass à partir d'une histoire vraie sur un syndicat corrompu, qui amène Paul et Leonard Schrader à faire ce film où trois hommes au début, on découvre qu'ils sont des amis. Et le film qui navigue au début entre la comédie dramatique et le film de casse va dans sa dernière partie devenir un thriller parano. Et on vous le conseille absolument, voilà. On en reparlera aussi, grand film anticapitaliste qui mène à la fois à lutte des classes et conflit racial. Voilà, donc un film vraiment à voir absolument, absolument. On avait vraiment trop de choses à vous dire aujourd'hui et on n'a pas pu débattre sur ce film que l'on adore. On aurait tellement voulu débattre dessus. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée par les films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr et Radiographite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. L'émission est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. C'était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit la Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.